Les enchanteurs Geneviève Brisac. Une promenade avec Werther. Werther a surgi dans mon bureau un Edelweiss séché à la main et il l'a mis dans un vase bleu qui traîne depuis toujours sur la table. Voici un petit Léontopodium, a-t-il dit gentiment. Un petit pied de lion pour une petite lionne en colère. Viens, on va se balader. Sans réfléchir, j'ai attrapé mon imper et mon sac et nous sommes sortis. Il avait deux tickets serrés dans sa main droite. Il avait tout prévu. Nous avons pris un train improbable, poussiéreux et vieillot, qui nous a amenés dans une gare jouée, avec deux grandes fenêtres entourées de briques rouges et une petite porte, exactement comme on les dessine à la maternelle. Des saules et des peupliers ondulés, et plus loin, on entendait chantonner un ruisseau. J'ai éprouvé une légère nausée devant tant de paix. J'ai trouvé un bistrot pour déjeuner, a déclaré Werther. J'ai protesté inquiète. Personne ne sait où on est. S'il arrive quelque chose, comment le saurons-nous? Tu as ton téléphone, a ricané celui qui n'en a jamais voulu. Mais je ne l'avais pas. Nous sommes entrés dans une vaste cour de ferme carrée. Le bruit sec des gravillons m'a fait battre le cœur. Pourquoi? Le cérémonial, sans doute. Il y a dans le bruit des pas ou le crissement des pneus sur le gravier une solennité, quelque chose d'officiel. Les murs étaient chaulés, les volets peints. Des glycines pendaient d'énormes treilles. Un champ de pommiers s'étendait de l'autre côté du chemin. Plusieurs tables de jardin, un décor de théâtre. Deux ou trois poules faisaient de la figuration intelligente. On n'entendait aucun bruit, sinon le clop-clop-clop d'une partie de tennis en contrebas. Cela prouvait qu'il y avait des humains quelque part. Tu as vu? Il y a même un kiosque en fer forgé et une roseraie. Werther était fier de sa trouvaille. Un pli du temps. On est dans un pli du temps, bien à l'abri, répétait-il. C'est plutôt une gloriette, ai-je dit, ou une tonnelle. Comme tu veux, a-t-il répliqué sèchement. Nous avons attendu longtemps et cela a ajouté au sentiment indéfinissable de paradis perdu et de légère menace. J'ai ressenti de l'agacement comme la victime du prestidigitateur qu'on a découpé en trois morceaux et qui aimerait bien passer à autre chose. Le repas est arrivé soudain. C'était joli et drôle, des assiettes décorées, des légumes ravissants. Il faut rentrer maintenant, ai-je dit, Cendrillon de midi. Tu ne sauras jamais vivre, a rétorqué Werther en haussant les épaules. Le train est dans 2 heures et moi j'ai à te parler. Puis il s'est tu et a commencé à manger paisiblement, avec délicatesse, des confettis de crône colorés qui ressemblaient à des smarties, et des aubergines rôties piquetées de lardons et de feta. Les silences de Werther peuvent être conséquents. Je chipotais dans mes rondelles de poire naine, mes cubes de navets noirs ornés de couronnes de lentilles corail, mes mini betteraves jaunes à la bergamote et mes minuscules salsifis en beignets. Je massacrais les violettes et les pensées qui décoraient l'assiette. Sais-tu que des épinards ne peuvent pas pousser à côté de pommes de terre? Demandait Werther au bout d'un moment assez long. J'ai haussé les sourcils. À cet instant, un caillou caché dans une cuillerée de lentilles m'a arraché un petit cri. Que faut-il en penser? Me suis-je interrogé devant ce message dont il n'était pas facile de deviner s'il était de l'ordre de la simple information ou bien à charge symbolique ou métaphorique. Mais je m'étais cassé une dent. Peu de choses m'inquiètent autant. J'ai eu des étincelles devant les yeux, un malaise invisible, un vertige. Je ne voulais pas l'avouer à Werther. J'ai craché le bout d'ivoire sanglant dans ma main et je l'ai enveloppé dans une serviette en papier que j'ai fourrée dans mon sac. Werther était toujours concentré sur ses crônes de toutes les couleurs. Ce cuisinier est un peintre qui s'ignore, a-t-il dit. Peut-être une cuisinière? Ça m'étonnerait. « Je voulais parler avec toi », a-t-il repris, tandis que je triturais ma gencive avec ma langue et tentais de mesurer l'ampleur des dégâts. « Il semblerait que tu fasses peur à tout le monde. Moi ?» Je m'attendais à tout, sauf à ce genre d'attaque. « Tu es trop bizarre. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Moi, je n'ai jamais eu peur de toi, tu le sais. Mais la direction s'inquiète. Prat surtout. Depuis le temps, ils devraient être rassurés, non? Ils sont contents des chiffres, tes chiffres comme tu dis. » Mais ce sont aussi les miens, je te le rappelle. Et ils se demandent s'ils ne seraient pas encore meilleurs avec quelqu'un de moins, je veux dire de plus. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Moins quoi, plus quoi? Tu es élitiste. C'est cela qui les inquiète. Ils te trouvent élitiste, intellectuelle, parisienne, trop. Trop de livres dans ton bureau. En plus, il y a tes cheveux. Trop de livres et trop de cheveux. Voilà leur pensée en deux mots. Sans parler de ta manière désinvolte de t'habiller au mépris des convenances de la vie de bureau. Élitiste, moi ? Pas du tout, absolument pas. Et d'abord, qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux ? J'étais révolté. Je prends un exemple à divertir doucement. Le matin, après avoir posé ta petite veste noire sur le dossier de ta chaise, est-ce que tu passes dans tous les bureaux pour bavarder avec tes collègues ? Non, tu ne le fais pas. Et tu as tort. On te trouve à la machine à café avec les autres 11h30 ? Non, et tu as tort. Tu partages la gamelle avec Madodo ? Avec Cathy Caille ? Avec Séverin à la fabrication ? Tu prends des nouvelles ? Tu évoques le match de la veille ? Jamais. Si je t'ai installé dans le couloir, c'était pour que tu deviennes leur ami. Mais les gestes de l'employé de bureau le matin, les petits mots qui ne veulent rien dire, mais qu'on dit par convenance, cela t'est tout à fait étranger. Tu sais très bien que je déteste cette démagogie. Je pensais plus exactement que je ne pouvais pas le faire. Rien que de l'imaginer, cela me donnait mal au cœur. J'ai haussé le ton pour masquer ma mauvaise foi. Je parle quand j'ai envie de parler à des personnes qui ont envie de parler avec moi. Je ne suis pas en campagne électorale. Tu veux que je serre des mains aussi ? Mais il arrive souvent qu'on ride avec Mélissa, la documentaliste, ou avec Claude, le manutentionnaire. Tu choisis mal les gens avec qui tu ris, a répliqué Werther. Suchard déteste Claude, qui est anarchiste, et ne se lave jamais. Quant à Mélissa, il la trouve braque et insolente. Elle se fera virer un jour ou l'autre. Tu n'as pas remarqué qu'on lui enlève petit à petit toutes ses prérogatives ? C'est un vieux truc de management. On écrase les ongles de pied un par un avant de broyer le pied entier. On réchauffe la grenouille degré par degré avant qu'elle meure sans avoir compris qu'elle avait bouilli. Elle partira ou elle fera une dépression, ou un cancer, ou les deux. Ah bon, ça s'appelle le management maintenant ? Tuer les gens à petit feu, ai-je remarqué ironiquement. Werther s'est crispé, des crocs n'ont valsé. Essaie de comprendre, on est dans la même barque, on n'est pas des patrons, on n'est rien, on n'a pas de capital, on n'est pas des héritiers. Et tu n'es plus si jeune, ni moi non plus. Nous ne nous en sortirons qu'en faisant bloc. Tu dois toujours passer par moi pour tout ce que tu entreprends et toujours me demander mon avis. Tu ne dois jamais aller contre une de mes décisions. Il a répété lentement. Nous devons faire bloc. Chaque fois que tu n'es pas contente, tu viens me voir. C'est la seule méthode.